affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme chacun sait, la crise sanitaire à laquelle nous faisons face a considérablement ébranlé l'économie mondiale. Si bien que pour faire face au spectre d'une récession, de nombreux États, dont la France et ses partenaires européens, ont décidé de déverser des sommes d'argent considérables sur l'économie. Aux États-Unis, ces interventions représentent aujourd'hui l'équivalent de 11% du produit intérieur brut. En Europe, les financements budgétaires sont également considérables. Agrégé, il représente environ 5% du PIB, et si l'on y ajoute les garanties publiques et les reports d'échéances fiscales ou sociales, on parvient à un total de quelque 15% du PIB. Peut-être salvatrices à court terme, ces mesures posent toutefois question à long terme, tant elles aggravent le problème déjà aigu de la dette, notamment dans notre pays. Si bien que se pose dès à présent une question angoissante, impossible à éluder. Qui va rembourser cette dette? Comment? Et selon quelles modalités? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Jacques Delarosière, ancien directeur du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ainsi qu'auteur de nombreux ouvrages consacrés aux crises financières, dont un livre récent, un livre de synthèse, paru en 2018 aux éditions Andy Jacob, est titré « Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier ». Monsieur, bonjour. Ma première question reprendra le titre de ce livre. Les politiques budgétaires et financières décidées face à la crise sanitaire ne rendent-elles pas plus aigu encore le risque de désastre que vous évoquiez ?
Oui, je vous remercie pour cette question qui est fondamentale. Il faut comprendre que la politique monétaire que nous avons pratiqué depuis une vingtaine d'années est, à mon sens, trop uniforme, trop symétrique. Il faut comprendre en effet que le cycle économique et financier impose normalement une respiration, c'est-à-dire que les phases où l'économie accélère et où les risques de surchauffe apparaissent, devraient correspondre à une action monétaire plus restrictive, c'est-à-dire une hausse des taux, un resserrement de la liquidité. Et en revanche, les phases de ralentissement économique doivent normalement s'accompagner d'une action monétaire expansive, avec une baisse des taux et un accroissement de la liquidité fournie par la Banque centrale. Mais cette alternance qui est classique entre phase restrictive et phase expansive a fait place depuis une trentaine d'années à une continuité dans le relâchement de la politique monétaire. Celle-ci est devenue en quelque sorte systématiquement, symétriquement et continuellement accommodante. Alors ça, c'est l'observation de base qui permet, je crois, de mieux comprendre la situation que vous avez évoquée. Parce que cette politique continuellement expansive produit un certain nombre d'effets. La première chose, c'est qu'elle incite les agents économiques à emprunter davantage, puisque les conditions de crédit sont systématiquement favorables. Et on en a la démonstration quand on regarde la courbe qui retrace l'écart entre la croissance du crédit, telle qu'elle est observée, et d'autre part la croissance de l'économie réelle. Et vous voyez que cet écart entre la croissance du crédit et la croissance économique s'est continuellement accru. Alors que autrefois, bon an, mal an, en temps normal, la croissance de l'endettement et du crédit allaient de pair avec la croissance de l'économie, depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, la croissance de l'endettement est continue, quelle que soit la phase du cycle, même dans les périodes de surchauffe. Alors, ça entraîne un surendettement généralisé. Et cet endettement généralisé n'est pas neutre. Il produit ce qu'on appelle des bulles d'actifs. C'est-à-dire que quand vous créez beaucoup de liquidités, mais que la croissance économique n'est pas là pour absorber ce surcroît de liquidités, le surcroît de liquidités, il est absorbé dans la valeur des actifs qu'on achète, c'est-à-dire l'immobilier, les actions, les obligations. Donc il y a une poussée des bulles d'actifs qui est très dangereuse, parce que les bulles d'actifs, quand elles montent trop, à un moment donné, elles éclatent. Et en éclatant, elles participent à la crise financière. Et vous avez aussi, parmi les inconvénients de cette sur-financiarisation de l'économie, une instabilité financière, une accélération de la survenance des crises financières. En d'autres termes, le cycle financier a pris la main sur le cycle économique. C'est ce qu'on appelle la surfinanciarisation du système. Alors, si on ne comprend pas ce que je viens de dire, la réponse à votre question, c'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer sur la voie actuelle, est très difficile à donner. Je vais poursuivre, si vous le permettez, pour manière didactique, un peu pour comprendre de quoi il s'agit. Une politique qui est continuellement accommodante, comme celle que nous avons, se traduit par des taux d'intérêt bas pendant longtemps, puisque on fournit tout le temps plus de liquidités que l'économie normalement devrait en absorber. Donc les taux d'intérêt sont bas pendant longtemps. Et je vais vous en donner un exemple. Prenez les 20 dernières années. Et si vous regardez les 20 dernières années, vous voyez que pendant 18 ans, sur les 20 ans considérés, pendant 18 ans, les taux d'intérêt de la Banque centrale, c'est-à-dire les taux directeurs, ont été négatifs en termes réels. C'est du jamais vu, ça. Si la Banque centrale fournit de la liquidité aux économies avec des taux d'intérêt qui sont négatifs en termes réels, c'est-à-dire défalqués de l'inflation, il est évident que vous avez des conditions extraordinairement relâchées de la création monétaire. Ce qui fait que lorsque vous avez besoin, à cause d'une conjoncture défaillante, quand vous avez besoin de faire baisser les taux pour relancer l'économie, vous ne le pouvez plus, puisque les taux que vous avez maintenus bas systématiquement pendant 20 ans, ils sont pratiquement à zéro. Ils sont même à zéro. Et donc, vous ne pouvez pas descendre.
Donc là, c'est le moment dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est que nous avons eu une politique extrêmement accommodante durant les 19 dernières années, tant et si bien que nous nous trouvons un petit peu démunis face à la crise actuelle, parce que les marges de manœuvre ont déjà été utilisées. C'est cela ?
Vous l'avez parfaitement résumé. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Et elle est encore plus bloquée que je viens de le dire, parce que vous trouvez le même phénomène de l'élimination des marges de manœuvre dans la politique budgétaire. La politique budgétaire des pays dits matures, des pays développés, a été systématiquement, je dirais, stimulatrice de la demande interne pendant la période de 20 ou 30 ans que je considère. Et donc là aussi, la contradiction est là. Les déficits budgétaires accumulés ont donné naissance à des taux d'endettement des États par rapport à leur produit intérieur brut qui sont considérables. En France, c'est 100% au moment où la crise du coronavirus a attaqué. Et en Italie, c'était de l'ordre de 125% du PIB, etc. Et donc, là aussi, comme pour la politique monétaire, lorsque vous avez accumulé pendant 30 ans des déficits budgétaires et que vous arrivez à des taux d'endettement public phénoménaux, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre pour refaire de la stimulation keynésienne par le budget. Et donc, ce que je reproche à ceux qui ont été chargés de, soi-disant, veiller à la stabilité du système financier, ce que je leur reproche, c'est que la politique monétaire, d'une part, a été constamment relâchée, ce qui ne permet pas facilement des marges de manœuvre, et d'autre part, la politique budgétaire a été également extraordinairement génératrice d'endettement public. Et là aussi, les marges de manœuvre sont très faibles. Si bien que lorsque la crise du coronavirus a frappé et que les États ont été amenés à confiner leur population et à arrêter une grande partie de la production économique, ils se sont trouvés dans une situation sans marge de manœuvre, ni du côté de la politique monétaire, ni du côté de la politique budgétaire. Alors, quand on n'a plus de marge, qu'est-ce qu'on fait ? Sur le plan budgétaire, quand vous n'avez plus de marge, c'est-à-dire quand votre taux d'endettement public par rapport à votre richesse nationale dépasse les 80% qui étaient encore à peu près acceptables, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous continuez à faire du déficit public parce qu'il le faut bien, parce qu'on est dans une situation où il faut bien donner aux salariés qui sont confinés par les consignes gouvernementales, il faut bien leur donner des moyens de vivre. Et donc, on entre dans le chômage partiel qui coûte très cher, puisqu'il oblige l'État à payer les travailleurs à ne pas travailler. Donc, on est bien obligé de le faire. Et à ce moment-là, on dit, eh bien, sans compter, comme on dit imprudemment certains, on va accumuler de nouveaux déficits budgétaires, de nouvelles dettes sur une situation déjà très fragilisée. Et on dit, ce n'est pas si grave que ça, parce que la Banque centrale, en l'occurrence en Europe, la BCE, achètera les montants supplémentaires d'émissions obligataires que les États sont amenés à faire à cause de la crise sanitaire. Et sur le plan monétaire, on a tendance à dire la même chose, c'est-à-dire, eh bien, oui, fournissons la liquidité nécessaire au pays, évitons que les entreprises ne soient bloquées par le fait que leur chiffre d'affaires et leur carnet de commandes s'épuisent avec le confinement des populations, et fournissons-leur le supplément de crédit qui leur permettra de passer cette mauvaise période. Et on est donc conduit, et c'est là qu'est la base de votre question, à laquelle j'arrive avec un peu de retard, je m'en excuse mon cher ami, mais on arrive à la question de est-ce qu'on peut continuer à faire du déficit budgétaire supplémentaire et à le financer avec, en fait, de la création monétaire. C'est ça la question. Alors, je répondrai, pour simplifier le débat, oui, on le peut dans l'immédiat. Rien n'oppose la Banque Centrale Européenne d'ajouter à son programme d'achat déjà très généreux de titres publics, d'ajouter une nouvelle couche, ce qu'elle a fait, et rien n'empêche le gouvernement d'entrer dans une plus grande phase de déficit budgétaire. Vous savez que notre déficit budgétaire était de l'ordre de 3% du PIB avant que la crise sanitaire n'ait frappé, et maintenant, on va avoir des chiffres qui seront très supérieurs à 3%.
Je ne vous entends plus.
Vous posez, le peut-on pour l'avenir plus lointain ? Et c'est là que je voudrais peut-être lancer la conversation. Alors, est-ce qu'on peut, si je puis le dire, indéfiniment satisfaire par les achats de la Banque centrale les besoins nouveaux des gouvernements qui se lancent dans des politiques extrêmement dispendieuses de dépenses publiques. Alors, la réponse n'est pas simple. On peut considérer que l'achat par les banques centrales de nouveaux titres du trésor public présente une forte élasticité. Les bilans des banques centrales qui reçoivent en quelque sorte ces achats de titres ont déjà beaucoup augmenté, comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, et ils vont encore beaucoup augmenter. Je lisais l'autre jour dans la presse que le bilan de la Fed, de la Banque centrale américaine, qui donne le la à toute la politique monétaire mondiale, venait de doubler, ce qui est absolument prodigieux. Et ça va être la même chose avec la Banque centrale européenne. Donc on peut imaginer que la Banque centrale augmente ses achats de ce qu'on appelle l'aisance quantitative, qui ont caractérisé les dernières années de la politique monétaire. Mais est-ce qu'elles le peuvent, ces banques centrales, indéfiniment ?
C'est ce qu'il faut désormais. Hein.
Et c'est ça la question.
Ce n'est pas une hypothèse théorique, puisque c'est proposé par un certain nombre de décideurs.
Et tout à fait. Et c'est implicite, quand ce n'est pas proposé nommément, c'est implicite dans beaucoup de déclarations et de politiques de fait. C'est comme si on disait, oui, on peut y aller indéfiniment. Alors, moi, je fais partie de l'école qui pense qu'on ne peut pas le faire indéfiniment, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si on le faisait indéfiniment, c'est-à-dire qu'on permettait à tous les gouvernements d'entrer dans des déficits incalculable, et de se dire « c'est pas grave, la Banque centrale va acheter tous les titres représentatifs de mes émissions », si on disait ça, on arriverait à une conséquence sur le plan de l'inflation ou de l'hyperinflation qui, à mon avis, serait très difficile d'esquiver. En effet, quand vous fournissez autant de liquidités banque centrale que vous le pouvez pour combler en quelque sorte la différence entre la croissance actuelle, la croissance observée qui est faible, et la croissance que vous désireriez, qu'on appelle la croissance potentielle, si vous comblez cette différence, non pas par de l'investissement productif, non pas par des politiques actives de création de richesses, mais par de la création de liquidités, l'expérience passée montre que vous créez de l'inflation. Alors je sais que cette théorie que je développe ici n'est pas dans l'ordre de la mode et du jour actuel, parce que les gens vous répondent « oui, mais c'est théorique, en réalité, il y a tellement de marge inutilisée dans la capacité de production par rapport à la création de richesses réelles, il y en a tellement de marge que l'inflation ne peut pas s'infiltrer dans le problème. On est trop loin de la plénitude, si vous voulez, de l'utilisation des capacités de production. Et donc, il y a une sorte de phénomène latent de désinflation, voire de déflation, disent certains, qui fait que ce que j'appelle l'hyperinflation, la menace de l'hyperinflation, qui est à mon sens au cœur de ce débat, ne se produira pas. Donc ça, c'est pour l'inflation. Mais il y a aussi d'autres considérations. Si on faisait ça, c'est-à-dire que si la planche à billets, pour parler vulgairement, mais pour parler en réalité tout à fait sérieusement, si la planche à billets était devenue la clé de tout le problème de la relance de la croissance mondiale, et qu'il n'y avait qu'à, comme on dit, entre guillemets, produire de la liquidité pour y arriver, il se produirait, même si on ne croit pas à la résurgence de l'inflation, voire de l'hyperinflation, il se produirait un phénomène d'altération de la crédibilité monétaire. Parce que vous ne pouvez pas utiliser la monnaie à des fins de financement généralisé de l'économie, alors que les moteurs de financement sont absents, sans créer au moins une question dans l'esprit du public sur est-ce que ça peut durer ? Est-ce que la monnaie n'est pas utilisée pour des fins qui ne sont pas les siennes ? Et donc je pense qu'à la longue, on aurait un problème de crédibilité monétaire. Problème qui n'est pas encore très envisagé aujourd'hui, mais qui est latent. Un homme comme Jacques Rueff, qui était un grand économiste français, était toujours très craintif de cet effet de la facilité monétaire sur la décrédibilisation de la monnaie. Donc, mon deuxième souci, après l'inflation, que l'on conteste, mon deuxième souci, c'est la perte de crédibilité monétaire, qui est évidemment la chose la plus grave qui puisse arriver au titre d'une responsabilité de politique monétaire. Si j'étais à la tête d'une banque centrale et que je me dise que ma politique risque de conduire à la décrédibilisation de ma monnaie, j'aurais un problème existentiel. Et enfin, troisième problème, plus juridique, plus circonstanciel, mais néanmoins très important, c'est que juridiquement, une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de fournir indéfiniment de la liquidité pour financer les déficits budgétaires. Elle n'en a pas le droit parce que c'est contraire au traité qui a établi la Banque Centrale Européenne et qui proscrit tout financement monétaire au Trésor. Et j'en veux pour preuve une déclaration récente d'un haut responsable de la BCE qui s'appelle M. Panetta. M. Panetta a été l'objet d'une question qui était précisément celle qui, M. Blanc, nous agite ce matin. Et la question, c'était, est-ce qu'on peut faire indéfiniment de la création monétaire pour financer les gouvernements ? Et on est allé plus loin encore dans la question, on a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour éliminer le problème de la dette qui surplombe comme une falaise immense toutes nos économies, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux banques centrales qui achètent des titres de dette sur le marché, de les annuler après les avoir achetés. Et à ce moment-là, on aurait le meilleur de tous les mondes, parce que d'une part, les banques centrales continueraient d'acheter les titres émis par les trésors, et d'autre part, elles les annuleraient, c'est-à-dire qu'elles permettraient aux trésors de ne plus avoir à rembourser et à servir les intérêts sur les instruments qui sont ainsi achetés. Et M. Panetta a dit, nous ne pouvons pas le faire, parce que nos statuts nous l'interdisent. Et donc, quand on dit la Banque centrale peut indéfiniment et de manière illimitée acheter les titres du Trésor pour faciliter le financement des budgets, on dit une incongruité juridique. Il y a un article du traité qui l'empêche. Parce que si vous faites cette opération d'annulation de la dette souveraine achetée par les banques centrales, ça revient à faire une subvention, si vous voulez, massive de la Banque centrale aux trésors nationaux. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est une illusion de croire qu'on peut indéfiniment faire cela. J'ajoute sur le plan budgétaire, pour être cohérent avec ma vision des deux aspects de la politique actuelle, monétaire et budgétaire, qui conduisent à l'impasse. Sur le plan budgétaire, il est erroné de croire que parce que la Banque centrale achèterait la totalité des émissions supplémentaires qu'un État doit faire pour financer son déficit accru, il est erroné de croire que le problème de la contrainte budgétaire disparaît pour autant. Alors ça, c'est un point qui est très important à bien comprendre. A priori, si la Banque centrale est prête à acheter la totalité, ce qui n'est pas le cas, je viens de le démontrer, mais enfin, supposons que la Banque centrale serait prête à acheter la totalité des suppléments d'émissions publiques qui sont nécessaires pour financer les déficits budgétaires accrus, ça ne ferait pas disparaître pour autant le problème budgétaire. Je vais l'expliquer. Certes, le problème budgétaire serait facilité par la création de liquidités par la Banque centrale qui achèterait les titres considérés. Il n'y a aucun doute, ça faciliterait les choses, ça permettrait au gouvernement d'émettre davantage et à des taux très faibles, puisque la Banque centrale serait toujours là pour les racheter. Mais la réalité est différente. Le taux d'endettement d'un pays par rapport à son produit intérieur brut, par exemple en France, avant la crise du coronavirus, 100%, l'Italie, 125%, ces pourcentages, ils vont continuer à être calculés par les analystes financiers, par les agences de notation. C'est pas parce que vous avez un bras monétaire qui vous achète les suppléments d'émissions que ces suppléments d'émissions ne s'accumulent pas dans les dettes, les liabilities, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire les engagements de l'État en question. Autrement dit, le déficit budgétaire, il reste là et il s'accroît. Et ceci n'est pas du tout sans conséquence. Si les taux d'endettement à travers cette politique de facilité devaient dépasser, je dirais, les normes de la soutenabilité, de l'acceptabilité, les agences de notation sanctionneraient ces débordements avec des notes moins favorables. Et les notes moins favorables, elles se répercutent sur la qualité de la signature gouvernementale et sur les taux d'intérêt. Alors certes, la Banque centrale peut toujours, dans une espèce de course en avant, de fuite en avant indéfinie, acheter tout ce qui est nécessaire. Mais comme je l'ai dit précédemment, elle ne le peut pas. C'est une illusion de croire qu'elle pourrait le faire. Et je vous assure que les participants à la Banque centrale européenne sont très conscients de ce que je dis. Et vous en avez certains qui considèrent qu'il faut garder une proportionnalité entre le rôle de la Banque centrale, qui est un rôle monétaire et de stabilité monétaire d'une part, et d'autre part, le rôle d'adjuvant, d'aide à la politique budgétaire. Et le récent jugement de la Cour de Karlsruhe en Allemagne n'est pas à prendre à la légère. C'est un avertissement qui consiste à dire « faites attention ». Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et pendant tout le temps. Et donc, je pense que les marges de manœuvre ne sont pas indéfinies. Je pense que les gouvernements ont tort de laisser croire qu'elles sont indéfinies, qu'elles sont illimitées, et que, d'une certaine manière, entre guillemets, il n'y a pas de problème. En réalité, le problème, il est là, il demeure. Et pour pallier cette situation, alors là on pourra peut-être en parler dans la partie qui suit de votre entretien, il y a une politique raisonnable à envisager. Voilà.
Oui, avant qu'on imagine la façon dont, en fait, le mot qui me vient à l'esprit en vous entendant, c'est celui d'addiction. On a l'impression que nos économies sont dopées par cet argent et que finalement elles se retrouvent dans la situation littéralement d'un drogué qui a besoin de toujours plus pour continuer à se mouvoir. Ce que vous voulez nous dire, c'est que le réel se venge toujours. Dans les aspects négatifs, je voudrais aussi qu'on dissipe une autre illusion que vous aviez évoquée dans votre ouvrage, puisque tous ces problèmes ne datent pas de la pandémie. Il y a une idée selon laquelle ces taux très bas, cet argent facile, permettrait de favoriser l'investissement productif. Or, vous nous expliquez que c'est tout le contraire, et que cette financiarisation, cette surfinanciarisation, en réalité, détourne l'argent des épargnants de l'économie réelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène ?
Oui, c'est un point qui est très important. A priori, d'une manière instinctive, quand vous interrogez quelqu'un et que vous lui dites « je vais faire en sorte que le coût de l'argent va être zéro », c'est-à-dire que vous pouvez emprunter sans que ça vous coûte rien. A priori, la tendance instinctive, c'est de dire oh « ben, chic, je vais pouvoir engager plus de projets, l'économie va en bénéficier, puisque les investissements productifs qui ne coûtent rien, vont pouvoir faire florès. » Et c'est ce que croient encore un certain nombre de gens et malheureusement un certain nombre d'économistes. Alors, quand on étudie cette question de l'influence des taux d'intérêt zéro ou négatif sur la croissance de l'investissement productif, on est frappé du fait que cette relation n'existe pas. C'est-à-dire que depuis que les taux d'intérêt avoisinent zéro, les investissements productifs, je parle des investissements hors immobilier, tout ce qui concourt, si vous voulez, à l'accroissement du capital productif d'un pays. Cette grandeur, depuis 15 à 20 ans, ne cesse de diminuer. C'est-à-dire que depuis que les taux d'intérêt sont très bas, on n'a pas vu une croissance de l'investissement productif, on a vu une décroissance de l'investissement productif. Alors, cette concomitance entre la baisse des taux d'intérêt et la faiblesse de l'investissement, il faut l'expliquer. Et il faut se garder, bien entendu, de dire c'est parce que les taux d'intérêt sont bas que l'investissement stagne. Il faut essayer de démontrer. Et j'ai participé à une étude économétrique et économique qui est sortie il y a à peu près un an et qui démontre, elle n'a jamais d'ailleurs été contestée par qui que ce soit, que le fait que les taux d'intérêt soient très bas ne favorise pas la croissance de l'investissement productif. Pourquoi ? Parce qu'il se produit ceci. Si vous avez des taux zéro, voire des taux négatifs, qui sont maintenant l'apanage des bonnes signatures, quand une bonne société, bien cotée, bien notée, émet des titres classés AAA, c'est-à-dire les meilleurs classements, elle produit une rémunération négative. Légèrement négative. Et à cause de la pression générale des taux d'intérêt très bas déterminés par les banques centrales. Alors l'agent économique, quand on lui dit « vous me donnez 100 pour participer à un projet d'une société très bien cotée, qui a un projet, disons, énergétique, un projet d'infrastructure qui améliorera les conditions climatiques, etc. Vous allez me donner 100, je vais vous donner un titre d'obligation de cette société, mais je vous préviens, je ne vous rembourserai que 95 ou 96, parce que le taux est négatif. Si vous êtes un agent rationnel, vous allez préférer rester liquide, c'est-à-dire garder cet argent en banque ou sous forme de billets à la limite, que vous mettez derrière votre matelas. Parce que vous vous dites, le jour où je voudrais monétiser l'avoir que j'ai, je peux toujours aller à ma banque, si j'ai 100, et elle me donnera 100, elle ne me donnera pas 95. Et donc, je préfère être liquide. Alors, c'est cette tendance rationnelle à la liquidité des avoirs financiers qui prévaut aujourd'hui. C'était la hantise de Keynes, un grand économiste dont la mémoire a été malheureusement déviée par beaucoup de faux disciples. Et Keynes disait, si vous baissez trop les taux d'intérêt, vous allez avoir le problème de la trappe à liquidité, comme il l'appelait, liquidity trap. Et la trappe à liquidité, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que si vous pénalisez trop le détenteur d'épargne longue, il va préférer garder son épargne en disponibilité à très court terme, voire immédiate. Et évidemment, ceci n'est pas propice à l'investissement à long terme, parce que tout cet argent qui aurait été normalement vers des investissements longs, mais assorti d'une rémunération normale pour quelqu'un qui accepte de ne pas consommer pendant longtemps ce qu'il gagne, ou une partie de ce qu'il gagne, si c'est plus possible d'avoir une rémunération, on préfère à ce moment-là rester liquide. Et si vous restez liquide, ça ne veut pas dire évidemment que les comptes en banque qui se sont ainsi accrus de cette épargne, que les comptes en banque sont inactifs, ils participent aussi au financement de l'économie à travers l'amélioration, si vous voulez, des conditions de financement des banques. Mais ce qui est important de noter, c'est que si toute l'épargne se traduit par des accroissements de comptes à vue par rapport à des achats de titres à plus long terme comportant à la fois un risque et une rémunération, si vous faites ça, vous n'avez pas la même qualité de financement de l'économie longue que si vous aviez des achats directs de titres longs. Et parce que les banques, certes, font de la transformation, c'est-à-dire qu'elles transforment des dépôts à vue en crédits à plus long terme, mais si ce n'est que des crédits à vue qui s'accroissent, si vous voulez, du côté des disponibilités dans une économie, les crédits vont être à très court terme. Et c'est ce que l'on observe depuis quelque temps. Alors, cette étude à laquelle je me réfère est une étude très importante parce qu'elle montre que la baisse des taux d'intérêt que l'on croyait la clé d'un retour à l'investissement productif est en réalité la clé d'une augmentation de la surliquidité des épargnes. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir. Alors, là aussi, il y a des choses à tirer de cette constatation, mais ce que je constate, c'est que lorsque cette thèse de l'affaiblissement de l'investissement productif du fait des conditions monétaires d'extrême baisse des taux d'intérêt, quand on excipe cet argument, qui est un argument malheureusement très vrai et fondé sur des chiffres tout à fait objectifs, on n'a pas de réponse de la part des banquiers centraux, parce que c'est peut-être la considération la plus gênante pour eux. Parce que créer de la monnaie, c'est assez facile. Il suffit d'appuyer sur un clic d'ordinateur. Mais faire en sorte que cette monnaie devienne un projet utile pour l'avenir de notre société, pour une meilleure économie énergétique, pour une meilleure économie sanitaire, laquelle s'est montrée très défectueuse, malgré l'importance des fonds publics qui y sont attachés dans un pays comme le nôtre. L'idée que tous ces projets d'avenir, qui sont ceux dont dépendront les conditions de vie de nos enfants et de nos petits-enfants, il ne faut pas se dissimuler, c'est ça qui est important. Eh bien, l'idée que tout ça est en train d'être saccagé, n'hésite pas à utiliser ce mot, par une politique monétaire mal comprise, me paraît désolant. Alors c'est un des 10 préjugés que j'avais, dans un livre récent que vous avez bien voulu citer, que j'avais dénoncé, et malheureusement c'est toujours plus vrai que jamais.
Pour sortir de cette forme d'addiction, de ce processus infini de financiarisation, parce que ce que vous expliquez, c'est que la financiarisation entraîne un surcroît de financiarisation et qu'on n'en finit plus. Comment sortir d'une telle addiction par quel sevrage? Quelle forme doit-il prendre?
Voilà, alors c'est la question un peu finale de notre entretien, parce que la partie critique que j'ai beaucoup développée ne débouche pas sur l'action. Et on est en droit de me dire, mais alors qu'est-ce que vous proposez? Et c'est ce que vous venez de me demander. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai toutes les réponses. Ça serait loin d'être le cas. Mais je vais dire des choses très simples, et souvent, dans les périodes de crise et de désorientation, les choses très simples sont très utiles. La première chose, c'est que il ne faut pas croire que l'on pourra sortir de tous les problèmes que nous avons évoqués, et en particulier du problème de l'addiction, par davantage de drogue, pour reprendre votre comparaison. Je crois que ça, c'est une erreur. C'est une erreur, d'ailleurs, que commettent les gens qui sont sous addiction. Et c'est la fuite en avant. Et donc, ce que je proposerais, avec prudence, mais je crois que c'est vrai, c'est que il y a deux sujets sur lesquels il ne faut pas se tromper. Il y a la politique monétaire de l'avenir et la politique budgétaire de l'avenir. Alors, prenons d'abord la politique budgétaire. Prenons-la d'abord parce que c'est elle, c'est-à-dire les déficits accumulés, qui entraînent l'addiction monétaire. La politique budgétaire, elle a été débridée. Un pays comme la France n'a cessé, depuis 30 ans ou 40 ans, d'augmenter sa dépense publique et de l'augmenter par rapport à la richesse nationale, par rapport à la croissance de la population. C'est-à-dire qu'il y a eu une courbe, je l'appellerais démentielle, de l'accroissement de la dépense publique. Cette courbe nous a amené à 100% de déficit. On nous dit que dans quelques mois, on s'apercevra que les 100% de dette par rapport au PIB sont devenus 125, disons, on n'en sait rien encore tout à fait précisément. Mais si on se disait, bon, ben d'accord, on passe de l'étiage de 100% de dette publique par rapport au PIB à 125%, c'est pas très grave, puisqu'il y a la Banque centrale derrière, et on peut continuer tous les ans à fabriquer des déficits de 2, 3, 3,5% du PIB, c'est pas très grave, ça sera financé. Si on disait ça, d'abord la contrainte budgétaire, dont je rappelais qu'elle était toujours là, deviendrait encore plus difficile à résoudre, parce que les agences de notation verraient ces chiffres se détériorer, et un jour ou l'autre, les notations s'en ressentiraient. Et ça, c'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que plus de la moitié de la dette publique d'un pays comme le nôtre est détenue par des investisseurs non résidents. Et ils sont très attachés au problème de la contrainte budgétaire et des chiffres budgétaires et des ratios. Donc, c'est pas gratuit de dire, bon, ben d'accord, on passe de 100 à 125% de dette par rapport au PIB, mais on peut continuer, c'est pas du tout assuré. Parce que s'il y a une chose qu'un détenteur de la puissance publique en matière financière devrait considérer comme la prunelle de ses yeux, c'est le ratio de la dette publique par rapport au PIB et le ratio de l'acceptation par les agences de notation de cette situation. C'est un point fondamental. Si ça se détériore, alors le coût de la dette finira par être plus cher parce que, comme je l'ai indiqué, on ne peut pas compter indéfiniment et éternellement sur la Banque centrale. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut faire attention sur le budget. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être surprendre les électeurs, c'est que il ne faut pas seulement stabiliser le ratio de la dette publique par rapport au PIB, il faut le réduire. Il faut faire ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands avaient un ratio de dette publique il y a quelques années par rapport à leur produit intérieur brut qui était de l'ordre de 80%. Par des actions ponctuelles, mais systématiques et résolues, ils ont, en l'espace de 10 ans, ramené les 80% à 60%. Autrement dit, ils ont baissé de 20 points de PIB leur ratio de dette publique. Et ce faisant, ils ont stabilisé évidemment les budgets. Ils n'ont pas créé de déficit budgétaire. Ils ont créé des excédents. On a beaucoup daubé sur cette politique de bon père de famille qui consistait à réduire le déficit et le ratio de la dette publique. On a daubé, on a dit, mais c'est une austérité insupportable que les Allemands s'imposent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en pleine crise du coronavirus? Et on s'aperçoit que l'Allemagne a une marge de manœuvre, parce qu'à 60% de PIB, elle peut remonter à 65, 66, 67, et elle ne s'en prive pas. Vous avez indiqué dans votre introduction les montants considérables qui étaient fournis par les États à la relance ou au maintien de l'économie réelle. Les Allemands ont la palme en ce qui concerne cela. Et ils ont la palme parce qu'ils peuvent utiliser les marges qu'ils ont recréées. Et moi je dis qu'un pays comme le nôtre devrait s'attacher avec obstination et méthode à réduire petit à petit son addiction à l'endettement public. Et nous avons, peut-être nous aurons 125%, je n'en sais rien, d'aide publique par rapport à notre PIB, mais ce qu'il faudra s'attacher, c'est de faire un peu comme les Allemands, c'est-à-dire de dire, bon, ben d'accord, c'est 125%, l'année prochaine, ça va être 122%, et on va réduire cette addiction. L'avantage de faire ça, c'est que on va faire ce qu'on aurait dû faire depuis 15 ou 20 ans. C'est pas du tout à cause du coronavirus qu'il faut faire ça. C'est parce qu'un pays ne peut pas se permettre de s'enfoncer dans la dette indéfiniment. Et la France aurait dû commencer à faire cet effort de restriction budgétaire depuis très longtemps. Et en le faisant, il faut se défendre de l'idée que c'est antisocial. C'est pas antisocial, c'est le contraire de l'antisocial. Parce que si le budget était mieux cadré, si on accordait moins automatiquement ce qu'on appelait les services votés, c'est-à-dire ce qui a déjà été voté doit être augmenté, si on faisait une véritable étude du bien fondé de chaque fonction budgétaire et de ce qu'elle coûte, on aurait un budget qui serait, à mon avis, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus acceptable par le citoyen et beaucoup plus efficace. Et on aurait de surcroît une perception par les détenteurs extérieurs de notre dette d'une amélioration de la situation. La littérature économique a montré en effet que la qualité de la perception d'une dette publique est plus fonction de la dérivée, c'est-à-dire de l'amélioration graduelle de l'endettement public par rapport à la richesse nationale, qu'elle ne l'est du stock lui-même de cet endettement. Autrement dit, certes, 125% est difficilement acceptable par le détenteur extérieur, mais un 125% qui devient 124% l'année d'après devient crédible. C'est comme ça que ça se passe.
Et
il faut devenir crédible. Donc, la première recommandation que je ferai pour répondre à votre question, c'est de commencer à s'attaquer à un problème auquel on aurait dû s'attaquer depuis 25 ans, qui est celui de la fuite en avant de notre dépense publique. Ça, c'est la première chose. C'est très important, hein, ce que je dis là. Et la deuxième chose, sur le plan monétaire, c'est que il faut commencer à raisonner juste. L'erreur qui a amené la politique monétaire à être en permanence trop relâchée, erreur que j'ai signalée au début de notre entretien, elle est, à mon avis, le résultat d'une erreur stratégique grave. Et je vais vous la décrire rapidement. L'erreur grave qui a fait que la politique monétaire est devenue continuellement relâchée est la suivante. Les banquiers centraux se sont assignés un objectif louable qui est de modérer l'inflation, qui avait été, vous vous rappelez, dans les années 70-80, un grand facteur de disruption économique et de mise à location, comme on dit, des ressources. Donc, ils ont un objectif d'inflation. Mais cet objectif d'inflation a été mal calculé. Il est à 2%. C'est-à-dire que la Banque centrale dit « ma politique monétaire doit viser à ce que l'inflation des prix à la consommation, le panier de la ménagère, que cette inflation ne soit pas plus que 2%, légèrement en dessous de 2%, 1,9% disons, année après année. Alors, l'objectif de 2% était en effet très valable il y a 35 ans. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Et pourquoi il ne l'est plus? Parce qu'il y a des lames de fond qui sont le vieillissement de nos populations, qui entraînent moins d'investissements, moins de productivité. Il y a la globalisation qui fait que sur nos tables viennent des produits qui incorporent des niveaux de salaire qui sont à peu près le dixième des nôtres et qui viennent de pays émergents, en particulier d'Asie et de la Chine. Il y a les progrès technologiques qui font que sur beaucoup de biens de consommation, il y a des baisses de prix qui sont dictées par la technologie. C'est vrai pour tout ce qui concerne l'information, la communication et l'Internet. Il y a aussi l'attitude des travailleurs qui, confrontés à une situation beaucoup plus difficile en matière d'emploi, sont devenus moins revendicatifs à l'égard des entreprises en matière de salaire. Tous ces facteurs jouent dans le sens d'une modération de l'inflation. Et quand vous cherchez à calculer ce qu'on appelle l'inflation d'équilibre, c'est-à-dire le taux d'inflation des prix à la consommation qui permet d'éviter à la fois trop d'inflation, l'hyperinflation, et aussi la désinflation excessive, la déflation, vous arrivez à un chiffre qui est plutôt 1%, 1,2%, mais pas 2%. Alors, vous me direz, la différence entre 1% et 2%, c'est qu'un point, on ne va pas faire une histoire. Si, on va faire une histoire. Parce que si vous axez toute votre politique monétaire sur un objectif qui n'est plus réaliste, que les fondements même de notre société écartent du plausible, à ce moment-là, vous poursuivez un mythe qui est 2%, que vous n'atteindrez pas. Et plus vous cherchez à l'atteindre, plus vous relâchez votre politique monétaire. Parce que si je n'ai pas 2% sacro-saint d'inflation, je suis en manque d'inflation et je dois pallier ce manque d'inflation par un surcroît d'activisme monétaire. Et c'est cette erreur, parce que c'est une erreur de calcul sur l'objectif, qui fait que les banquiers centraux, et ils le disent encore aujourd'hui dans leur communiqué, ils disent « Non, on n'est pas encore à 2%, on doit y aller. » Et ça conduit à une fuite en avant qui a été extrêmement préjudiciable à la santé et à la stabilité économique et financière de notre société. Alors, je, personnellement, et c'est, j'en terminerai par là, je dirais qu'il faut abandonner cet objectif de 2%, parce qu'il nous conduit là où il ne devrait pas nous conduire, c'est-à-dire à une inflation exagérée des actifs, et c'est-à-dire en fait à une situation d'inflation latente à travers les actifs, et qu'il faut revenir à quelque chose de plus raisonnable, qui serait autour de 1 à 1,5%. Et on peut le faire sans drame et sans causer un krach boursier, en le faisant d'une manière très graduelle et en évitant de dramatiser chaque mois qui passe et où l'INSEE calcule le taux d'accroissement des prix à la consommation, et de dédramatiser, si vous voulez, le fait qu'on est à 1,5, c'est à peu près le chiffre actuel, qui est tout à fait conforme à l'équilibre financier. Et moi, je souhaiterais que cette politique de recadrage du 2%, on peut le faire d'ailleurs en faisant une fourchette autour de l'objectif, au lieu de dire qu'il faut que ce soit 1,9, on pourrait dire entre 1,2 et 2,2, on peut avoir une marge de tolérance. Et le seul fait de flexibiliser, si vous voulez, cet horizon, cet objectif de 2% d'inflation, et de le rendre plus cohérent avec la réalité des lames de fond existantes, assainirait la situation. Et j'ajouterais qu'il faut arrêter de vouloir, par la politique monétaire, régenter la totalité de la courbe des taux. Autrefois, la politique monétaire agissait sur les taux courts, et par un rétrécissement, un resserrement des taux courts, ou un relâchement des taux courts, on arrivait à modifier à la marge la tendance économique. Et vouloir régir au microscope électronique tous les taux de 0 jusqu'à 50 ans par la Banque centrale me paraît être une erreur. Parce que si vous décidez, ce que l'on fait aujourd'hui, que la courbe des taux doit être pratiquement plate, c'est-à-dire que les taux doivent être aussi peu rémunérateurs à 50 ans qu'ils le sont à une semaine, si vous faites ça, ce que l'on fait aujourd'hui, vous agissez dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui est le raccourcissement de l'horizon des épargnes. Parce que si vous dites à l'épargnant, si vous mettez votre argent dans un titre à 20, 30, 40 ans, qui est un titre qui en principe va être générateur d'investissements productifs, et que vous allez avoir une rémunération de 0,50, vous ne le faites pas, vous restez en compte à vue. Et si nous voulons avoir, là c'est vraiment, c'est pas le technicien qui parle, c'est l'homme de la rue, si nous voulons avoir pour nos enfants une situation dans laquelle on fait quelque chose, dans laquelle on investit, dans laquelle on change le cours actuel des choses, tant en matière énergétique qu'en matière d'infrastructure, il faut bien rémunérer l'épargne. Et donc, l'idée que le banquier central me dise à moi, citoyen lambda, tu vas avoir 0,5% si tu mets ton argent dans un titre à 50 ans, c'est aller à l'encontre de la croissance économique future. Et donc je dirais, si j'avais la moindre responsabilité, ce que Dieu ne plaise, je dirais, ne régissez pas toute la courbe des taux. Laissez-la vivre, cette courbe, sous l'influence des facteurs d'apport d'épargne et de demande d'épargne, de façon que ce marché de l'offre de capitaux et d'utilisation de capitaux puisse traduire, si vous voulez, les taux d'intérêt en termes de rapport de force réel. Et donc, voilà un petit peu, si vous voulez, le message que je voulais donner, avec beaucoup de prudence, parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir raison dans ces domaines, mais ce que je crois très sincèrement, c'est que la politique actuelle, si on la continue indéfiniment, si on dit « non, 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 c'est pour toujours que les taux d'intérêt vont être à zéro », je pense qu'on va s'enfermer dans la non-croissance. Voilà.
Est-ce que tout cela ne traduit pas finalement, au-delà de... pourrait nous mener à une crise financière grave, mais est-ce qu'il n'est pas le signe d'une crise politique, voire d'une crise morale? Parce que voilà, je raisonne aussi comme monsieur tout le monde, l'homme de la rue, j'ai un peu le sentiment que le cœur de tout ça, c'est une mentalité très court-termiste. Après, vous savez, en quelque sorte, et les générations suivantes sont chargées de ce fardeau.
Non, je crois que vous avez malheureusement mille fois raison. Monsieur de Gasperi, qui était un grand homme politique italien de l'après-guerre et qui avait des titres démocratiques dans une Italie ex-mussolinienne, disait « il y a deux manières d'envisager la politique. Il y a la manière politicienne, qui consiste à regarder la date de la prochaine élection et à faire tout ce qu'on peut pour la gagner. Et puis, il y a la manière de l'homme d'État. Et la manière de l'homme d'État, c'est de regarder à une ou deux générations à venir. » Et il disait, évidemment, c'est la deuxième catégorie dont nous avons besoin. Et je pense que vous avez raison de dire qu'il y a un problème politique et moral derrière tout ça. Pendant très longtemps, on s'est habitué à l'hégémonie américaine après la guerre. Les États-Unis étaient le pays sauveur. Ils avaient gagné la guerre, ils avaient rétabli la démocratie, ils avaient l'économie la plus forte, la finance la plus forte, au détriment de la Grande-Bretagne. Et ce pays, miracle, en 1944, a eu une vision politique à long terme. Et il a dit « plus jamais les conflits nationalistes des années 20 et 30, c'est fini, ça nous a conduit à la guerre, on veut un système multilatéral régi par une discipline qui s'imposera à tous ». Et ça a été le système dit de Bretton Woods qui a imposé pendant une trentaine d'années une grande discipline au système et aussi une grande croissance économique. Ce système a été abandonné par les États-Unis en 1971. Ils avaient trop de difficultés à se soumettre à la discipline de l'étalon de dollar or et ils ont donné un coup de pied dans cette fourmilière qu'ils avaient créée avec tant de soin. Et c'est depuis 1971 que la facilité, le recours au crédit illimité s'est insinué. Et petit à petit, quand on fait l'histoire de cette dérive financière que j'accuse depuis des années dans mes ouvrages, quand on fait l'analyse de ça, on voit comment cette facilité, cette addiction, comme vous disiez, s'est propagée dans nos systèmes économiques. Et aujourd'hui, pour en revenir à votre question du leadership, est-ce qu'on a la vision, la sagesse politique et aussi le courage pour redresser tout ça, c'est très difficile, parce qu'il n'y a plus d'hégémonie intelligente et, je dirais, démocratiquement acceptable, telle qu'on l'a connue de 1944 à 1975. Elle n'existe plus. Les États-Unis ne sont plus porteurs de ce message à la fois d'espoir et de leadership. Et donc, on est un peu comme une volée de moineaux. Chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut. On entre dans des guerres commerciales. Les États-Unis déclarent la guerre commerciale à la Chine, qui avait d'ailleurs de bonnes raisons de se voir déclarer la guerre, parce qu'elle avait abusé du système de la libéralisation totale du commerce. Mais on entre dans une zone maintenant de frustration bilatérale. Et elle n'est pas très propice, Monsieur Blanc, elle n'est pas très propice à une vue globale des choses qui serait en particulier animée par certaines des considérations que nous avons développées ce matin et qui amènerait, ce serait ça l'idéal, à une sorte de grande conférence internationale à la Bretton Woods qui n'accoucherait pas de Bretton Woods parce que ce n'est pas tout à fait transposable, mais qui accoucherait d'un système de responsabilité multilatérale. Je pense que c'est ça qui nous manque, parce que un pays comme la France ou l'Allemagne tout seul ne peut pas rétablir un ordre mondial. Et les États-Unis ne sont pas dans une situation ni politique ni économique dans laquelle ils puissent le faire non plus, avec la montée de la Chine. Donc on est dans une situation beaucoup plus complexe que celle de 1944, où il y avait un joueur évident du jeu mondial, c'était les États-Unis. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Il y a la Chine qui monte et qui a ses ambitions. Il y a les États-Unis qui s'incrustent dans une politique très bilatéraliste. Et il y a une Europe qui est malheureusement absente de la plupart des grands débats mondiaux. Et donc, je m'excuse de finir un peu sur une note géopolitique qui dépasse mes compétences, mais je ne pense pas que nous soyons dans un très bon climat, si vous voulez, pour générer cette reprise en main à la fois intellectuelle et morale et démocratique du système. Mais bon, on peut toujours espérer.
Écoutez, après ce tableau, je me sens quand même de la rue très, très démuni. Toutefois, puisque nous avions évoqué ce caractère de crise politique, de court-termisme, reconnaissons humblement que les dirigeants, les politiques et les décideurs ne sont pas seuls responsables, car après tout, nous votons pour les uns ou pour les autres, nous résistons plus ou moins à telle et telle réforme nécessaire, et qu'au fond de tout cela, ce qui est probablement ce que nous pouvons faire, c'est d'une part revenir nous aussi au réel, nous renseigner, faire de la pédagogie, et la pédagogie de la responsabilité, et c'est ce que permettent vos ouvrages, et c'est pour ça que je vais me permettre d'en citer quelques-uns et inciter les auditeurs à s'y plonger. Le dernier, donc, les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier, un vaste panorama de ces préjugés mortels, chez Odile Jacob, et également chez Odile Jacob, pour avoir un plus large spectre de ces 50 dernières années mortifères dont vous parliez depuis la fin de Bretton Woods, 50 ans de crise financière, pour Jacques Delarosière également, toujours aux éditions Odile Jacob. Merci monsieur, merci d'avoir dit les choses clairement, finalement c'est de ça dont nous avons besoin, donc il ne faut pas vous excuser de terminer sur une note sombre, parce qu'il faut affronter les problèmes. Merci beaucoup.
Merci à vous.